Le journal vous est présenté par Yves Decamp. Bonsoir Yves.
Bonsoir. Il y a aussi des riches qui déconnent. Le ministre des Comptes publics répond à la controverse suscitée par Emmanuel Macron qui voulait responsabiliser les personnes en difficulté. Oui, répond Gérald Darmanin, le gouvernement luttera autant contre la fraude fiscale que contre la fraude sociale. Une taxe française sur les GAFA, le projet sera présenté en Conseil des ministres fin février. La taxe rétroactive au 1er janvier devrait rapporter 500 millions, un coup d'épée dans l'eau pour l'organisation ATTAC qui dénonce un manque d'ambition du gouvernement. La marche pour la vie dans les rues de Paris, plusieurs milliers de personnes pour dénoncer l'avortement, la PMA et toute velléité de recherche sur les embryons. En Ligue 1 de football, un léger mieux pour l'OM qui l'emporte 1-0 à Caen. Angers-Banante 1-0, match nul 0-0 entre Rennes et Montpellier. En Coupe d'Europe de rugby, Toulouse s'impose face aux Anglais de Bath et jouera au Racing en quart de finale. C'est fini pour Federer à l'Open d'Australie, le tenant du titre battu au troisième tour par le jeune grec Tsitsipas. Et puis un nouveau nom à retenir en ski alpin, Clément Noël, 21 ans. Il remporte le slalom de Wengen en Suisse en battant deux Autrichiens, dont l'intouchable Hirscher. Sans oublier ce soir les Bleus face à l'Islande pour une place en demi-finale des championnats du monde de hand. Le journal des sports dans un instant avec Jérôme Val. Enfin la météo. Du bleu et du froid demain dans une large moitié nord. En attendant la neige mardi, à peu près partout, sauf sur les côtes.
France Inter.
Pour commencer, l'histoire de ce jeune Malien de 14 ans que raconte un médecin légiste italien. On se souvient du petit Elan dont la photo avait fait le tour du monde. Il avait 3 ans, le visage enfoui dans le sable d'une plage de Turquie. Il était devenu le symbole des migrants en quête d'une vie nouvelle et qui se noie en Méditerranée. Aujourd'hui, le travail de ce médecin permet de découvrir un peu de l'histoire de cet autre garçon. Une histoire largement relayée ces derniers jours en Italie et ce dimanche en France. Julie Pietri.
Il avait 14 ans, il venait du Mali et il s'est noyé en 2015 lors du terrible naufrage qui avait fait près de 800 morts au large de la Libye. Dans sa veste était soigneusement cousu son bulletin de notes. Avec quelles attentes cet adolescent avait caché ce document si précieux pour son futur, s'interroge Cristina Cataneo, le médecin italien qui a trouvé le document. Dans un reportage de la télévision italienne, la RAI, Cristina Cataneo racontait encore récemment son métier, récupérer les vêtements des noyés et ce qu'il reste de leur corps. Trouver des bulletins de notes, ça arrive souvent, dit-elle. C'est typique de ce que l'on peut découvrir dans les affaires des disparus. Ils cousent dans leurs vêtements ce qui est important, les passeports aussi, les photos de famille, glissées dans des sacs plastiques qui protègent de l'eau. Dans un livre, elle imagine ce que pensait le jeune garçon quand il a caché son bulletin. Il se disait sûrement, écrit-elle, que ses qualités, ses aptitudes scolaires lui ouvriraient les portes d'une école italienne ou européenne.
Plusieurs dizaines de migrants sont morts ces derniers jours en Méditerranée, au large des côtes libyennes ou marocaines. Le pape François leur a rendu hommage ce matin. Ces morts qui s'ajoutent aux 2262 personnes portées disparues en 2018, selon les chiffres du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. En France, un éventuel envoi par courrier de la lettre d'Emmanuel Macron aux Français pourrait coûter entre 5 et 7 millions d'euros, estimation du ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, qui se dit d'ailleurs favorable à l'opération, en ajoutant « je n'ai pas d'ordre à donner, bien sûr, au président de la République ». L'essentiel pour lui, c'est que les Français s'intéressent au grand débat national voulu par le chef de l'État et qu'ils ne le perçoivent pas comme un débat blabla. On va y revenir. En attendant, oui, il y a aussi des riches qui déconnent. Le même Gérald Darmanin revient sur les propos controversés d'Emmanuel Macron, qui avait appelé à davantage responsabiliser les personnes en difficulté. Oui, explique le ministre, il faut mettre des mots sur les choses. Il était à midi sur France 3.
Bien sûr qu'il y a des riches qui déconnent. Tous ceux qui ne faisaient pas leur déclaration d'impôt, par exemple. Tous ceux qui étaient phobiques administratifs, vous en connaissiez. Le phobique administratif, c'était celui qui devait payer l'impôt sur le revenu, parce qu'il touchait des revenus parfois importants. Des gens qui faisaient des allers-retours dans de pays étrangers, qui venaient en France un an, qui ne faisaient pas de déclaration d'impôt, ben, c'est de l'argent en moins dans les caisses de l'État. C'est des écoles pas payées, c'est une protection sociale pas payée.
Est-ce qu'il y a plus de riches qui déconnent ou de gens en difficulté qui déconnent?
Quand on fait le prélèvement à la source, moi je suis pas pour la guerre des classes sociales. Moi je suis pour qu'on puisse se dire ici que bien sûr il faut une redistribution juste. Et la condition de la redistribution juste, la condition que vous acceptiez, monsieur, de payer vos impôts, c'est que vous apercevez que vous le faites en justesse et que les autres le fassent également. Qu'il n'y ait pas de fraude, ni sociale, ni fiscale. Alors. Et peut-être que l'État, depuis de trop longs moments, n'a pas voulu mettre des mots sur les choses. Et le président de la République, les amis, c'est une bonne chose.
À propos des gilets jaunes et du débat dont on parlait à l'instant, une 11e journée de mobilisation déjà se profile, si l'on en croit Priscilla Ludowski, l'une des figures du mouvement qui appelle à rester mobilisée. Le débat national lancé par Emmanuel Macron, dit-elle, n'est qu'un moyen d'endormir la contestation, un débat qu'elle ne rejette pas, mais dont elle doute qu'il puisse apporter les réponses attendues par les gilets jaunes. Pendant ce temps, les cahiers de doléances continuent à se remplir dans les mairies où la collecte a commencé parfois depuis plus d'un mois. C'est le cas à Nîmes, où un troisième cahier a été mis à disposition du public. Roméo Van Maastricht.
Richard entre d'un pas décidé, s'assoit face au petit bureau dans le coin de la pièce, s'empare du stylo et commence à gratter le papier. Écrire dans ses cahiers, ce fonctionnaire nîmois y pensait depuis longtemps.
Ça faisait plusieurs jours que j'avais envie de mettre mes revendications au point de vue de mes demandes.
Une dizaine de lignes à l'encre noire et plusieurs doléances.
Comme beaucoup de personnes, je demande le rétablissement de l'ISF. Si au moins une personne lit ce que je demande, ça peut servir quand même un peu.
On trouve de tout dans ce cahier de doléances. Certains veulent la suppression de l'ENA, d'autres la reconnaissance du vote blanc. L'un des signataires écrit même, je cite, « J'en suis arrivé à être obligé de louer ma maison pour payer mes impôts ». Devant le cahier, Marie-Josée est plus hésitante.
Peut-être, oui, peut-être que je viendrai. Je ne vous dis pas aujourd'hui, mais je vais me faire une opinion sur la chose et je viendrai, oui.
Le petit cahier fait en tout cas son effet. Les passants tournent les pages, l'air curieux, pour voir ce que le voisin a écrit.
Des cahiers de doléances, des débats et donc des manifestations qui vont se poursuivre. Pas question d'ailleurs à ce sujet de supprimer les LBD, lanceurs de balles de défense. Le secrétaire d'État à l'intérieur, Laurent Nunez, a été catégorique, comme l'avait été déjà Christophe Castaner. Si on supprime cette arme, dit-il, il va y avoir des drames et ce sont les policiers qui seront lynchés lorsque ces LBD sont utilisés, ajoute Laurent Nunez, c'est que la manifestation a tourné en guérilla urbaine. La taxe sur les GAFA, c'est comme si c'était fait. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, l'a dit au JDD. Il présentera son projet en Conseil des ministres fin février sans attendre un hypothétique accord européen. Une taxe spécifiquement française viendra prélever les géants du numérique, déclarant un chiffre d'affaires de plus de 750 millions d'euros dans le monde, 25 millions en France. Taxe rétroactive au 1er janvier et qui devrait rapporter dans les 500 millions. Question de justice et d'efficacité, explique Bruno Le Maire. Soit, c'est pas du tout ce que pense Raphaël Prado, le porte-parole de l'organisation Attac en France, qui ne voit dans tout ça qu'un simple effet d'annonce, une mesurette qui manque d'ambition, il l'a dit au téléphone de Philippe Lefebvre.
Cette mesure sur le papier est séduisante, mais quand on regarde dans le détail, en réalité, ça ne va absolument rien régler au problème. Parce que le problème, c'est que ces géants du numérique se débrouillent pour déclarer leurs revenus dans d'autres pays, et bizarrement dans des pays où on échappe à l'impôt, comme l'Irlande, le Luxembourg ou les Pays-Bas. Et cette taxe, elle va taxer leur chiffre d'affaires. Or, le chiffre d'affaires qui est déclaré en France est absolument ridicule. On peut trouver un certain nombre de chiffres. J'en prends un seul pour Apple. Ils déclarent 800 millions de chiffre d'affaires en France, alors qu'on estime que leur chiffre d'affaires réel, c'est 4 milliards. Donc, si vous mettez une taxe de quelques pourcents sur le chiffre d'affaires qui est réellement déclaré, eh bien, en fait, vous taxez une infime partie de leur chiffre d'affaires réel. Et ça permet de comprendre, d'ailleurs, le montant qui est ridicule. On attend 500 millions de cette taxe, 500 millions par rapport au chiffre d'affaires réalisé par ces géants en France. C'est absolument ridicule.
Le journal de 19h sur France Inter.
En marche pour la vie, après les gilets jaunes, en attendant les foulards rouges, des foulards bleus ont défilé dans les rues de Paris ce dimanche. 7500 personnes selon la préfecture de police, 50 000 personnes selon les organisateurs, des manifestants anti-avortement pour lesquels vivre est un droit, dire la vérité sur l'IVG c'est dissuader. Cette marche pour la vie, 13e édition, c'est pour les manifestants le premier acte de la mobilisation citoyenne contre la révision de la loi bioéthique, contre l'IVG, la PMA et l'utilisation des embryons dans la recherche, Hélène Chevalier.
Oui, c'est notamment sur le slogan Macron touche pas à nos embryons que des familles avec leurs enfants, des retraités, mais aussi pas mal de jeunes comme cette adolescente de 17 ans ont marché cet après-midi pour la vie.
On ne peut pas tuer un enfant qui est dans un ventre, même si on ne le voit pas, il est quand même vivant et ben ça reste la peine de mort et je suis contre ça.
Mais cette année, vous le disiez Yves, ce qui revenait souvent parmi les craintes des manifestants, c'est la future loi de bioéthique, si le texte n'est pas encore rédigé. Les nombreux rapports publiés ces derniers mois les inquiètent. L'extension de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes, mais aussi post-mortem, ou le dépistage de plus de maladies avant et pendant la grossesse. Adélaïde Pouchol est la porte-parole de cette marche pour la vie.
Moi, mon problème, c'est pas l'orientation sexuelle des parents. Je m'en fiche, franchement. La question, c'est comment on traite les enfants. Est-ce qu'on pense qu'il est légitime que des enfants soient fabriqués en laboratoire? Est-ce qu'on pense qu'il est légitime qu'il y ait un marché de la procréation? Est-ce qu'on pense que le médecin en blouse blanche, le mec dans son labo, doit être la troisième personne qui assiste le père et la mère dans l'enfantement? Bah non.
Enfin, autre motif d'inquiétude, la remise en cause de la clause de conscience qui permet aux professionnels de santé de ne pas pratiquer l'IVG. La sénatrice Laurence Rossignol a déposé une proposition de la loi pour la supprimer. Le gouvernement affirme, lui, s'y opposer.
Et parmi les soutiens aux manifestants ce soir, Viviane Lambert, qui contestera de nouveau demain devant un tribunal l'arrêt des soins de son fils Vincent, qui est en état végétatif depuis maintenant 10 ans. Un incendie tragique à Courchevel, le maire de la commune. Une salue ce soir la solidarité qui s'est très vite organisée autour des sinistrés de la nuit dernière. 2 personnes non encore identifiées sont mortes dans l'incendie d'un bâtiment hébergeant des saisonniers. 4 autres ont été gravement blessés. 40 de résidents doivent être relogés. L'enquête devra déterminer les raisons de cet incendie. On sait seulement qu'une procédure de rénovation du bâtiment venait d'être engagée. À l'étranger, il n'y a qu'une Macédoine et elle est grecque. C'est en partant de ce principe que 60 à 100 000 personnes ont manifesté dans les rues d'Athènes contre le nouveau nom du pays voisin, rebaptisé la République de Macédoine du Nord. Le gouvernement grec a donné son accord, ce qui lui vaut des accusations de traîtrise d'une partie de la population, et notamment bien sûr des habitants de la province grecque de Macédoine. Angélique Kourounis.
La manifestation n'avait pas encore commencé que les premières bombes lacrymogènes éclataient au pied du Parlement. Les opposants à l'accord de Prespes, qui a rebaptisé la Macédoine en République de Macédoine du Nord, ne font pas marche arrière, au contraire. Kostadinos explique être là car il a peur.
Le nom Macédoine appartient à notre pays. Il ne peut pas être donné à un autre État comme si c'était la Corée du Nord et la Corée du Sud. Les gens d'en face finiront par revendiquer nos terres, nos produits macédoniens, tout ce qui comprend le nom Macédoine. Les politiciens n'ont pas le droit de faire ça à leur peuple. Faudrait pas s'étonner si on les trouvait pendus sur la place de la Constitution après ce qu'ils ont fait.
Sur l'estrade, des orateurs, dont un ex-sénateur gréco-américain, de nombreux évêques et des universitaires se succèdent pour expliquer pourquoi cet accord doit être considéré comme une trahison. Des mots lourds de conséquences qui vont marquer à jamais le pays. Il n'empêche, le gouvernement affiche la certitude qu'en fin de semaine prochaine, l'accord sera ratifié et qu'il sortira vainqueur de cette épreuve. Athènes, Angélique Kournis, France Inter.
2 arrestations ce matin à Londonderry en Irlande du Nord après l'explosion d'une voiture piégée. L'attentat n'a fait aucune victime, mais il a de quoi inquiéter les Irlandais en paix depuis l'accord de 1998. Un accord que seul un petit groupe, l'IRA véritable, conteste. Un groupe que pourrait réveiller la perspective d'une nouvelle frontière entre les deux Irlandes après le Brexit. Au Mali, c'est l'une des attaques djihadistes les plus meurtrières contre l'ONU. 8 casques bleus du contingent tchadien ont été tués non loin de la frontière algérienne, 20 ont été blessés. Enfin, en Égypte, on parlait de Bruno Le Maire tout à l'heure, il passait son dimanche au Caire en préparation de la visite d'Emmanuel Macron à la fin du mois. Un pays, l'Égypte, dont le régime ultra-autoritaire du président Sisi est pointé du doigt par les associations de défense des droits de l'homme, qui dénoncent notamment la mansuétude dont il bénéficie de la part des Occidentaux en général, de la France en particulier. C'est le cas de cette militante Mona Saïf, dont le frère est en prison depuis 5 ans. Et dont nous parle François Hume Ferkataji au Caire.
Chaque matin, Mona Saïf note le nombre de jours restants avant que son frère ne sorte de prison. Le 17 mars prochain, après 5 ans d'enfermement pour manifestation illégale, Alaa Abdel Fattah, une des figures des jeunes libéraux de la révolution de 2011, devrait être libérée, mais son calvaire n'est pas complètement terminé.
Alaa a été condamné à 5 ans de prison, suivi de 5 ans de liberté conditionnelle. Mais ici, en Égypte, la liberté conditionnelle est très particulière. Cela signifie qu'il devra passer toutes ses nuits dans un commissariat de police pendant les 5 prochaines années, de 6h du soir à 6h du matin.
Malgré les risques, Mona Saïf continue de militer. Elle a créé une organisation pour lutter contre les procès militaires pour les civils qui se multiplient en Égypte. Elle documente aussi les exactions quotidiennes des forces de sécurité. disparition forcée, acte de torture. Le silence de la France face à ces multiples violations ne la surprend plus.
Je crois qu'elle est complice et j'ai compris que le destin de notre génération n'est qu'un dommage collatéral. J'ai compris qu'ils se fichent de savoir que le prix à payer pour ces gros contrats d'armement, ce sont des gens envoyés en prison jusqu'à la fin de leur jour, ou qu'ils disparaissent, ou qu'ils sont tués par la police.
Getting abducted and then killed.
En partant, la militante indique qu'elle donne toujours des rendez-vous dans des cafés connus et fréquentés de la capitale. En cas d'enlèvement par les forces de sécurité, il y aura au moins des témoins, dit-elle.
François Hume, Ferkataji au Caire. Dans un instant, la météo, d'abord la route. La 86 intérieure est chargée ce soir en région parisienne, Florian Cazola.
Oui, on observe en ce moment sur nos écrans 6,5 km de ralentissement de Choisy-le-Roi jusqu'à Rungis. Sur la 1, le trafic se fait par à coup de la Courneuve jusqu'à la porte de la Chapelle. Prévoyez 4 km de ralentissement sur la 25 en direction de Lille et au niveau d'Armentières. Plus au sud, sur la 43, le trafic se fait au ralenti de Bourgoin-Jallieu jusqu'à Saint-Quentin-Falavier. Et puis la circulation est perturbée et se fait par à coup sur la 7 en direction du sud et à l'approche de l'échangeur avec la 47.
Florian Cazola, donc au PC Mobilité de Radio France.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Alors, se mettra-t-on aux fenêtres cette nuit vers 4h30 du matin? La lune sera rougeâtre le temps d'une éclipse qui est normalement visible totalement de tout le pays. Encore faut-il que le ciel le permette, Jean-Michel Golinski.
La situation va se compliquer mardi avec l'arrivée de la neige sur la plupart des régions, entre 5 et 10 cm prévus dans le courant de la journée. Seules les régions de la façade atlantique et celles du pourtour méditerranéen vont rester à l'écart de cet épisode neigeux. Demain, la neige ne va concerner que le relief des Pyrénées, du Massif central et du nord des Alpes, avec des flocons à partir de 600 mètres. Il va également neiger sur la Corse, jusqu'à 15 cm à partir de 1000 mètres d'altitude. Autour de la Méditerranée, le vent modéré va dégager le ciel, tandis que du sud-ouest au nord de Rhône-Alpes, l'ambiance sera plus terne. Enfin, sur une large moitié nord, le bleu va dominer, mais avec des températures froides en cours de nuit, jusqu'à moins 5 degrés prévus au nord de la Seine. Le ciel va se brouiller en fin de journée par la Bretagne et le vent se renforcer à l'approche de la perturbation neigeuse prévue mardi.
Voilà, c'est donc jouable demain matin pour l'éclipse qui devrait durer 1 h 02 en moyenne, sachant que plus on est à l'est, bien sûr, plus l'éclipse rattrapée par le lever du soleil paraîtra courte. 19h17, on passe au sport. Avec vous, Jérôme Val, bonsoir.
Bonsoir Yves.
Il y a de tout dans cette 21e journée de Ligue 1, la déconfiture de Monaco hier, le carton du Paris Saint-Germain et puis ce dimanche, on attendait Marseille au tournant.
Et l'OM, hein, incapable de gagner depuis 2 mois et qui commençait une lente reculade au classement, eh bien les Phocéens ont enclenché la marche avant sur la plus petite marge des marges, victoire 1-0 à Caen, Antoine Martin.
22 ans que l'Olympique de Marseille n'a pas perdu à Michel Dornano en Ligue 1. Il fallait bien revenir jouer ici à Caen en Normandie pour se rassurer un peu. Victoire sur la plus petite des marges, 1-0 face à des malherbistes qui ont été conquérants en inquiétant Steve Mandanda à plusieurs reprises en première période. Mais cela reste insuffisant pour accrocher le scalp de l'OM. Les Phocéens ont cueilli à froid les Normands en tout début de seconde période grâce à une tête de Sanson sur un centre de Strootman. Les hommes de Rudy Garcia ont eu la tâche facilitée ensuite avec l'exclusion de Gilbert pour un deuxième avertissement. Une seconde période en supériorité numérique côté marseillais, mais qui sont restés fébriles jusqu'à la dernière minute. Après 9 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, c'est donc un succès conquis dans la difficulté par les joueurs de la Canebière. Ils vont pouvoir respirer 5 jours durant avant la réception du dauphin du Paris Saint-Germain. Marseille recevra Lille vendredi au stade Vélodrome pour enfin lancer une dynamique positive. À Caen, Antoine Martin pour France Inter.
Mais Marseille remonte provisoirement à la 7e place du classement. Les autres résultats de ce dimanche, pas de but entre Rennes et Montpellier, 0-0. Et puis finalement, Angers s'impose sur le fil 1-0 contre Nantes.
Une 21e journée qui se conclura tout à l'heure par le plus chaud des derbies de cette Ligue 1, Saint-Etienne face à Lyon.
Le 118e entre les deux villes. Mais cette année, vous l'avez peut-être remarqué Yves, l'avant-match a été plutôt calme. Pas de petites phrases, pas de polémiques. Il n'y a même pas de supporters lyonnais à Geoffroy Guichard, même si la rencontre est classée. C'est à risque par les forces de l'ordre. Ce qui change aussi, eh bien, c'est que les Verts sont en forme sur le podium de la Ligue 1, ce qui ne leur était plus arrivé depuis 6 ans. À Saint-Etienne, Alexandre Vaux.
Pour la quatrième fois seulement depuis le début des années 2000, les Verts vont aborder ce derby devant Lyon. Au classement, ils sont troisième. Les Lyonnais à deux petits points derrière. Un enjeu décuplé alors que ce sera le premier derby à domicile pour le coach de Saint-Étienne, Jean-Louis Gasset, qui sent bien que ce match est particulier.
Beaucoup d'excitation par rapport à tout ce qui se passe autour, tout ce qu'on m'a dit depuis que je suis arrivé. Il y a un an qu'on me parle de ça, j'ai l'envie de voir ça. Ça, c'est unique.
D'ailleurs, le chaudron sera plein à craquer pour la première fois de la saison. Ce soir, de la potion magique pour des Stéphanois, alors que sur le papier, Lyon est favori. Mais Saint-Etienne reste la seule équipe en France invaincue chez elle, toute compétition confondue. De quoi à nouveau rêver en grand pour le capitaine des Verts, Loïc Perrin.
Le championnat cette année est vraiment homogène. C'est ouvert à part Paris, bien sûr, mais le reste, pour l'instant, il n'y a pas une équipe qui se détache forcément. Voilà, il reste énormément de point en jeu, à nous de rester accrochés et puis on verra au fur et à mesure.
À Saint-Étienne aussi, personne n'a oublié l'humiliante défaite de la saison dernière, 5-0 à Geoffroy Guichard, mais il s'en est passé des choses en 14 mois. Depuis, Saint-Étienne est devant au classement et les Verts ne comptent pas se laisser faire.
Et le leader de ce championnat, le Paris Saint-Germain, a donné des nouvelles après la blessure hier de son milieu de terrain Marco Verratti, entorse de la cheville sans lésion mais sans préciser la durée de son indisponibilité. Rappelons-le, la Ligue des Champions, c'est dans moins d'un mois.
Contre Manchester. En rugby, deux équipes françaises sont qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe et elles vont devoir s'affronter.
Le Racing 92 contre Toulouse. Voilà l'affiche de ce quart de finale. Les Toulousains étaient qualifiés avant même de jouer cet après-midi contre Basse. Et leur victoire face aux Anglais 20-17 les envoie donc chez les Franciliens. À Toulouse, Alain Gastel.
Une dernière victoire pour l'honneur qui permet aux Toulousains tout de même d'éviter d'aller jouer leur quart de finale à Londres face aux Saracens, sans doute l'épouvantail de la compétition, même s'il sera sans doute pas une partie de plaisir d'aller défier le Racing à Nanterre à la fin du mois de mars. Les Toulousains concluent tout de même de belle manière un parcours inespéré dans cette Coupe d'Europe où ils faisaient leur retour et dans la poule la plus difficile. La petite claquette de Médard à la fin du match de Basse, la partie initiale qui prive les Anglais d'une première victoire, a semble-t-il changé le destin de la saison toulousaine. Tous les joueurs vous le diront, ils ont pris confiance en eux et surtout en leur jeu déployé, fait de contre-attaques, de prises de risques et d'initiatives. Une douce euphorie que le pénible voyage à Dublin la semaine dernière n'a pas éteinte. Elle en a simplement fixé les limites, peut-être provisoires. Toulouse, Alain Gastal, France Inter.
Et le Racing 92 s'était qualifié hier dans un match marqué par l'annonce choc de son ouvreur sud-africain, Pat Lambie. Il met fin à sa carrière à 28 ans en cause des commotions cérébrales à répétition qui mettaient sa santé en danger. Le capitaine du Racing, Dimitri Sarzeski.
Ce sont des moments difficiles, on est là justement pour le soutenir, pour l'aider justement. Il sait qu'il peut compter sur nous, sur tout le monde, sur la famille du Racing. Il y a eu un avant-match avec beaucoup d'émotions, il y a un après-match aussi où on lui a rendu, et voilà, on lui a dit merci, rendu hommage pour tout ce qu'il avait fait pour le club parce que c'est un joueur et un homme exceptionnel.
Dimitri Sarzeski au micro de Vincent Pellegrini, un homme exceptionnel aussi en ski. Clément Noël, le bien nommé, 21 ans, le Vosgien, a remporté son premier succès en Coupe du Monde de slalom et pas sur n'importe quelle piste, Wengen en Suisse. Il avait terminé quatrième des derniers JO d'hiver et le voilà sur la plus haute marche devant les spécialistes dont l'Autrichien Marcel Hirscher. Écoutez Clément Noël.
C'est un sentiment génial, c'était une course magnifique avec beaucoup de public, avec une piste parfaitement préparée. Donc voilà, moi je suis. La journée a superbement commencé avec une victoire en première manche et puis après voilà, il y a un peu de pression à gérer et je suis très content d'avoir réussi à le faire. Ma deuxième manche n'est pas magnifique, il y a quelques erreurs, mais alors là tout de suite je m'en fous un petit peu parce que ça m'a suffi pour gagner cette course et c'est essentiel, donc c'est génial.
Allez, on passe au hand avec les experts qui n'ont pas trop le temps de souffler au Mondial en Allemagne.
Et après leur victoire hier contre l'Espagne, 33-30, ils remettent le couvert dès ce soir contre l'Islande. Cette fois, deuxième rendez-vous du tour principal de ce Mondial. L'occasion pour les tricolores de se rapprocher un peu plus des demi-finales. Bonsoir Jean-Pierre Blimeau.
Bonsoir Jérôme.
Vous êtes à Cologne pour France Inter. C'est le match, Jean-Pierre, a priori le plus abordable pour les Bleus. Mais attention à la fatigue accumulée depuis le début de la compétition.
Oui, sur le papier, l'Islande qui s'est inclinée hier soir de 5 buts face à l'Allemagne ne devrait pas poser de problème aux experts. Mais la question qui se pose, Jérôme, c'est surtout l'état de fraîcheur des deux équipes. Pour la France, après l'Allemagne mardi, la Russie jeudi, l'Espagne hier, ce sera le quatrième match en 6 jours dans une compétition internationale déjà très chargée. 5 matchs au premier tour, 3 au deuxième avant une éventuelle demi et une finale. Il faudra disputer 10 matchs pour aller au bout. Alors, pas question de se relâcher, pas question de relâcher la pression non plus dans ce deuxième tour où une défaite peut être rédhibitoire, même contre l'Islande. Confirmation avec Vincent Girard, l'un des gardiens de l'équipe de France.
Ce système fait que bah, on peut se faire éliminer jusqu'à la dernière journée, donc à nous de rester concentrés, à nous d'être de pas faire de bévue déjà contre l'Islande pour continuer notre route et on verra ce que les autres résultats nous réservent.
Il y a un risque de décompression ou c'est impossible pour vous?
Vous savez, on est dedans depuis le 26 décembre, alors je pense que personne va se dire c'est fait. Il y a des joueurs de beaucoup d'expérience dans cette équipe, même s'ils sont jeunes, et je pense pas.
Alors pour autant, l'équipe de France a livré contre l'Espagne le match le plus abouti du mondial et semble monter en puissance. Hein, les pertes de balles ont été minimisées. L'attaque emmenée par Ludovic Fabregas, Dikamem, Quentin Mahé ou encore le jeune Melvin Richardson a envoyé du bois. La défense est apparue encore plus efficace, même si le maître à jouer, Jérôme, Nicolas Karabatic, n'est pas encore à 100%. Les experts ont toutes les cartes en main pour être optimistes. Et puis à l'instant, dans quelques secondes, si jamais le Brésil bat la Croatie, puisque les Brésiliens, à quelques secondes de la fin du match, mènent face aux Croates 28-26, eh bien il suffirait que l'Allemagne batte la Croatie demain soir et que la France, dès ce soir, batte l'Islande pour que les tricolores soient déjà qualifiés pour les demi-finales avant même de jouer mercredi soir contre les Croates.
Merci Jean-Pierre Blimont, direct depuis Cologne. Ce match entre la France et l'Islande, c'est à 20h30 ce soir.
La sensation en tennis, comme dirait Fabrice Abgral, Roger Federer éliminé dès les huitièmes de finale à l'Open d'Australie.
Oui, le Suisse n'a pas résisté à la jeunesse de Stefanos Tsitsipas, défaite en 4-7 face à ce joueur de 20 ans et dont l'idole n'est autre que Federer lui-même. Mais cette mauvaise nouvelle pour l'ancien numéro 1 mondial en cache une bonne pour ses fans, puisque le Suisse a annoncé qu'il allait participer à Roland-Garros à Paris, après 4 ans d'absence.
Je suis quand même dans une phase où je pense que je dois me faire plaisir. Je ne peux pas dire que ça m'a manqué. L'année dernière, c'était bien de ne pas le faire. L'année d'avant aussi. L'année d'avant, j'étais blessé. J'avais juste envie de peut-être une fois le refaire. Après, aussi peut-être pas avoir un méga break encore une fois. Je n'ai pas la sensation que c'est vraiment méga nécessaire. C'était un peu décidé comme ça.
Voilà, Roger Federer qui sera donc à Paris au printemps prochain. Federer chute, mais Rafael Nadal lui passe et se qualifie pour les quarts de finale en n'ayant toujours pas perdu un seul set. Les espoirs français maintenant à Melbourne ne tiennent plus qu'à un fil avec un Lucas Pouille, dernier escapé tricolore. Il sera sur les courts demain aux alentours de 7h heure de Paris face au Croate Borna Koric. Allez, des airs à la mer, Yves. Mmh. C'est le parcours atypique de Jean Galfione, l'ancien perchiste devenu navigateur.
Et oui, le médaillé olympique de 96 qui se raconte dans un livre qui vient de paraître, Rien n'est jamais écrit, livre publié par les éditions Artaud.
Galfione, le champion à la perche, le premier français à avoir passé une barre à 6 mètres et qui a réussi à se faire une place dans sa deuxième passion, la voile, au point d'avoir son propre bateau et de s'aligner sur des courses prestigieuses comme la Route du Rhum. Fabrice Hawkins l'a rencontré.
Un physique athlétique et des yeux rieurs, Jean Galfione est sur un nuage. Il n'aurait jamais imaginé faire carrière dans la voile.
Cette passion de la mer et de la voile, j'ai réussi à la transformer en faisant de la régate et de ces régates me retrouver sur des courses prestigieuses. C'est un gros challenge pour moi. C'est une richesse et un apprentissage de vie en permanence, une soif de dire, de se redécouvrir tout le temps, quoi.
Ses débuts sont encourageants. L'ancien perchiste finit 18e sur 45 pour sa première Route du Rhum en 2014. 4 ans plus tard, il remonte sur son monocoque, objectif faire mieux. C'est raté puisqu'il abandonne après seulement une semaine de course.
Je pense qu'il manquait des navigations d'expérience dans des météos compliquées à plus de 50 nœuds avec des rafales à plus de 100 km/h avec des creux, enfin des conditions qu'on rencontre que très rarement, sur lesquelles même on évite. Ma préparation n'était pas suffisante et complète pour prétendre être au niveau de cette Route du Rhum en tout cas.
Une grosse déception pour l'ancien champion. Il a pensé à arrêter, mais il ne veut pas en rester là.
Je peux pas m'arrêter là-dessus. Je serai pas en paix avec l'idée que j'arrête sur un échec et que je serai pas en paix dans l'idée que j'ai pas redonné tout ce qu'on m'a apporté dans cet univers.
Jean Galfione espère retrouver la mer en mai prochain avec de nouvelles courses.
Voilà, ne pas s'arrêter sur un échec, c'est peut-être ça d'ailleurs la définition Yves d'un champion.
Et son livre donc s'appelle « Rien n'est jamais écrit » aux éditions Artaud. C'était le journal des sports de Jérôme Val. Merci beaucoup.